Donc les figures, par définition, sont un terrain interdisciplinaire qui intéresse bien sûr les littéraires, mais aussi les linguistes et d'abord les rhétoriciens, au moins chronologiquement. Et en dépit de nombreuses mises au point depuis l'Antiquité, de nombreuses théories, c'est un domaine qui continue à soulever beaucoup de débats. Bon, plus pour certaines figures que pour d'autres, mais peu importe. Voilà, alors, évidemment, je n'aurai pas le temps de faire le tour de la question, mais je vais centrer mon propos sur deux points. Le premier paraît assez banal, mais en réalité, il a été assez peu étudié. Donc le premier point, c'est le problème finalement de la dénomination des figures qui implique des réflexions sur leur statut, c'est-à-dire est-ce que les figures sont des figures du discours, est-ce que c'est des figures de style ou est-ce que c'est des figures de rhétorique. Donc ça sera ma première partie. Et puis la deuxième partie sera beaucoup plus concrète. Donc je vais défendre l'idée que les figures sont d'abord des figures du discours, et pour illustrer cela, je prendrai quelques exemples de la métaphore dans la publicité, en montrant que finalement une figure dépend complètement de son type de discours. Mais ça, bon, d'autres l'ont déjà démontré, mais avec la publicité, c'est facile. Donc voilà, en gros, mes deux parties que vous retrouvez en feuilletant l'exemplillé. Voilà, alors je commence donc par une sorte de bilan sur le statut des figures, donc en regardant en fait quelques-uns de leurs traits caractéristiques. C'est-à-dire finalement, quels traits. Alors, tout est résumé pratiquement au schéma de la page 4. Le consulter au fur et à mesure. Donc vous voyez quels sont les traits distinctifs qui composent cette nébuleuse qu'on appelle figure. Alors, ce qui est frappant dans le domaine des figures, c'est vraiment le flou qui existe dans leur dénomination. Alors, il y a beaucoup de théoriciens qui parlent simplement de figure. Bon, par exemple du Marseille, mais en général, on relève plusieurs modifications pour caractériser ce terme, donc figure de rhétorique, figure de style, figure du discours. Alors, ces appellations différentes peuvent s'expliquer par des raisons historiques. Ça, c'est assez facile à voir, c'est-à-dire que les figures ont d'abord été de rhétorique, avec le courant du même nom. Donc vous avez cette dénomination, par exemple, dans la rhétorique à Hérénius, c'est la citation petit a. Ensuite, les figures sont devenues du discours, en particulier au début du 19e siècle, la citation B, donc très connue de Fontanier, ça a été vraiment un de ceux qui ont parlé de figure de discours, le montre bien. Et un peu plus tard, même si on trouve déjà la notion, par exemple, chez Fontanier, les figures sont plutôt devenues de style, avec la promotion de la stylistique, le déclin de la rhétorique. Donc ça, c'est plutôt à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Et vous avez par exemple Littré, quand vous regardez Littré, Littré parle de figure de style. Alors, indépendamment de toute considération historique, de telles fluctuations dénominatives peuvent s'expliquer par des différences d'approche. Alors, si on parle de figure de rhétorique, bon, c'est qu'on s'intéresse plutôt à leur dimension, on va dire, persuasive. C'est le cas de Reboul, citation petit d, ou bien on met en évidence leur statut métasémiotique. C'est le cas du groupe Mu, hein, la rhétorique générale du groupe Mu, voilà, qui parle de figure de rhétorique. Et si on parle de figure du discours, alors c'est par exemple le cas de Forget, hein, eh bien on souligne plutôt leur statut d'occurrence dans une communication donnée. Et pour terminer, si on parle de figure de style, on s'intéresse plutôt à leur dimension esthétique, du moins c'est, on va dire, la pratique, et vous avez cela dans la citation petit e. Donc en gros, les choses paraissent assez bien, réparties, mais le problème, c'est qu'on a très souvent des confusions entre ces trois dénominations. Par exemple, quand vous lisez le Petit Larousse, citation F, hein, vous lisez « figure de rhétorique »,« figure de style » ou « figure ». Donc vous voyez que tout est presque mis sur le même plan, hein, c'est-à-dire que les dénominations paraissent interchangeables. Alors, en face de ces flottements terminologiques, qui ne sont pas anodins, parce que derrière ces noms se cachent des positions idéologiques, c'est clair, il est intéressant de voir quelques pistes de clarification, donc c'est ce que je vais un petit peu essayer de faire, hein, donc clarifier un petit peu ces notions. Alors, je vais plutôt me centrer sur le couple figure de discours, figure de style, avec quelques excursus sur la composante rhétorique des figures. Alors, je vais commencer par la dénomination figure du discours, hein, qui me paraît primordiale et qui me paraît englobante. Et pour illustrer mon propos, je prendrai, vous avez ça, page 1 et page 2, quelques exemples de mots-valises, d'hyperboles et de métonymies. Alors, on peut considérer que les exemples 1 à 13 constituent des figures du discours. Hein, donc les hyperboles, les mots-valises, les métonymies. Alors, en vertu de quels critères, voilà, hein, quels critères peut-on alléguer ? Alors, en premier lieu, ça c'est une évidence, mais ces figures sont nécessairement actualisées à la surface des énoncés et des textes. Donc, elles sont engendrées par le fonctionnement ordinaire de la communication, exploitant les virtualités inhérentes à la plasticité de la langue. Alors, si vous prenez les mots-valises 1 à 4, si vous regardez le petit schéma de la page 1 concernant le mot-valise « alicament », on voit bien que ce mot-valise, en réalité, n'est qu'un cas extrême de composition avec la fusion des termes « aliment » et « alicament » et « médicament ». Donc, les figures sont parfaitement ordinaires, hein, parfaitement usuelles, ce qui ne signifie pas qu'elles soient banales. Alors, plus précisément, on peut dire que les figures sont globalement des variations libres, hein, des variations libres dans les productions discursives. Alors, si on prend, par exemple, la métonymie numéro 6, « Modiano est une excellente plume », bon, l'énonciateur a focalisé son point de vue sur la facette instrumentale de Modiano, donc plume, mais il aurait très bien pu adopter d'autres perspectives référentielles, notamment agentives. Par exemple, Modiano est un excellent auteur. Alors, le statut variationnel des figures est très bien mis en lumière quand on observe leur émergence entre un premier jet non figural et une reformulation, par exemple, métonymique. Alors, c'est quand on regarde les manuscrits et l'état final des textes. Alors, c'est l'exemple 8. avec deux petits sous-exemples tirés de Balzac, le Lys dans la vallée. Quand on compare le manuscrit et la version finale, on voit très bien qu'on assiste à une métonymisation croissante donc, de la phrase de Balzac. Alors, ça, ce sont donc deux premières conditions, je pense, sur lesquelles tout le monde peut être d'accord, hein, pour qu'il y ait figure du discours, donc construction discursive, variation libre, mais évidemment, ça ne suffit pas, hein, pour qu'il y ait figure du discours. Donc, il faut au moins deux autres conditions complémentaires. Alors, une de ces conditions, c'est qu'une figure, quelque part, doit présenter, alors on peut hésiter sur les mots, hein, mais je dirais une science, un relief, appelez ça comme vous voulez, sur le canevas des énoncés, hein, c'est-à-dire un énoncé plat. Oui, on peut se poser la question, est-ce qu'un énoncé plat peut être figural ou pas ? Donc, pour qu'il y ait figure, il faut que quelque part, il y ait une gestalt, hein, une forme visible qui se détache. Alors, ce n'est pas forcément en relief, ça peut être en creux, hein, sur le fond construit par chaque communication. Alors, ça, c'est la condition, on va dire, phénoménologique des figures. Ces sciences, et évidemment, ces sciences dépendent des dimensions du langage concernés par les variations en jeu. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous prenez la métonymie, par exemple, numéro 5, révolte des tracteurs en Grèce, tout le monde est plus ou moins sensible, d'une part, aux guillemets, et puis surtout à la discordance animée-inanimée qui affecte le groupe nominal. Donc révolte tracteur, et qui permet de voir en tracteur, bon ben, évidemment ici c'est un trop pour désigner les paysans. Alors d'autre part, donc il faut science, mais il faut également que ces sciences, ça c'est le niveau cognitif et non plus phénoménologique, apparaissent comme typiques, c'est-à-dire il faut que elles répondent quelque part à des schèmes de pensée fondamentaux qui sous-tendent les productions langagières. Alors, ce sont des schèmes fondamentaux, hein, par exemple l'analogie pour la métaphore, le conflit pour l'antithèse, etc. Mais si vous prenez les mots valises 1 à 4, ils reposent tous sur un schème analogique, au moins au niveau formel, c'est-à-dire leur fusion est conditionnée par une homophonie, hein, vous avez toujours l'homophonie, donc par exemple I-ment entre aliment et médicament, hein, dans alicament. Ces schèmes peuvent être logico-casuels, hein, ça c'est le cas de la métonymie. Donc la métonymie qui joue sur les relations, par exemple, instrument-agent, exemple 5 à 7, ou bien source physique, effet psychique, exemple 8. Ou bien si vous prenez une hyperbole, hein, les exemples 9 à 13, eh bien elle repose essentiellement sur des schèmes tensifs. Donc la typicité constitue un paramètre essentiel pour les figures du discours, dans la mesure où elles contribuent à leur mémorisation, à leur régulation et à leur intégration dans des matrices génériques, donc la matrice du mot valise, la matrice de la métonymie. Bon, si vous n'avez pas ces matrices, vous n'avez que des variations discursives. Hein, donc c'est très difficile de dire qu'il y ait une régularisation figurale. Donc voilà. Cette typicité permet aussi le glissement des figures vers une organisation métasémiotique. Donc c'est le petit schéma que vous avez à la page 2. Donc on peut opposer la sémiotique, on va dire, du langage standard et la métasémiotique des figures. Alors, c'est un petit peu inspiré du groupe nu, hein, donc de la rhétorique générale, ce schéma. Donc, la sémiotique du langage standard filtre le système de la langue selon une norme institutionnelle avec sa grammaticalité, sa sémanticité, etc. Alors que la métasémiotique des figures se concrétise dans le discours, toujours à partir du système, donc c'est en cela que les figures sont normales, hein, mais elles se singularisent par rapport à la norme institutionnelle selon des catégories spécifiques que le groupe mu a très bien décrites. Hein, ce sont donc les métaplasmes, la famille du mot valise, les métasémèmes, la famille de la métonymie, les métalogismes, la famille de l'hyperbole, etc. Donc, la métasémiotique des figures, alors, bien sûr, on peut la décrire en termes d'écart par rapport à la sémiotique du langage standard. Mais disons que je préfère parler de confrontation. Joël Tamine va dans le même sens, hein, dans la mesure où entre les deux systèmes, vous n'avez pas du tout une opposition, mais vous avez sans arrêt, évidemment, des interférences. Donc, si les figures du discours peuvent être définies comme des formes libres, saillantes et typiques, elles se présentent aussi comme des opérations énonciatives qui concourent au rendement des énoncés dans lesquels elles prennent place. Trop insister là-dessus, on peut dire que les figures, généralement, sont des zones langagières suractivées en ce que leur saillance tendent à concentrer le potentiel fonctionnel des productions discursives. Alors, c'est typique avec le mot valise, hein, puisque un mot valise, comme l'a très bien vu Almut Grésillon, c'est une condensation de deux prédications. Donc, par exemple, quand vous prenez le mot valise alicament, alicament, c'est à la fois tout le champ sémantique de aliment et de médicaments, mais c'est valable pour toutes les figures. Donc cette idée de concentration fonctionnelle me paraît, ou de condensation fonctionnelle me paraît importante pour caractériser les figures du discours. Voilà, donc ça ce sont donc quelques paramètres, hein, pour essayer de cerner la notion de figure, mais on doit tout de suite préciser que ces paramètres sont toujours relativisés par les aléas de la production des énoncés et des situations de communication. Donc, je peux juste en dire un mot. Alors, si vous prenez le premier paramètre, l'idée que les figures sont des variations libres, alors, il est clair que le statut variationnel des figures peut être neutralisé, plus ou moins neutralisé. Alors, c'est surtout lorsqu'elles sont récupérées dans le langage standard. Donc, au degré minimum, la figure ou la variation figurale peut se figer en expression conventionnelle, du style « une excellente plume », c'est la métonymie numéro 6, et au degré maximal, la variation se résorbe en catacrèse, hein, c'est-à-dire en figure lexicalisée. C'est l'exemple numéro 7, la métonymie « un violon » au sens de « un violoniste » est enregistrée dans les dictionnaires dès le XVIe siècle. Voilà, donc on peut parler de défiguration des figures, mais elle n'est jamais définitive, puisque elle peut toujours être finalement réactivée. Alors ça, c'est donc le premier aspect relativisant de la notion de figure. Une autre relativité dans la notion de figure, c'est le problème des saillances, hein, des saillances figurales. Alors évidemment, ces saillances sont très fluctuantes selon les contextes. Bon, il est clair, on l'a déjà vu, que la métonymie numéro 5 fait saillance, hein, d'une façon très forte, c'est-à-dire elle est immédiatement perceptible. Par la rupture isotopique, les guillemets, et surtout son insertion au premier plan dans un titre de la presse. Par contre, si vous regardez l'hyperbole 11, mon frère est extrêmement intelligent, donc c'est le problème souvent des figures dites de pensée, l'effet science est beaucoup plus problématique, hein, dans la mesure où on n'a aucune rupture, en tout cas interne, à l'énoncer, et où on ne peut avoir une science que par rapport au macro-contexte ou par rapport à des discordances référentielles avec la référence donc, de l'énoncé. Alors, si on prend maintenant le critère de la typicité des schèmes figuraux, alors cette typicité également est à géométrie variable. Alors, c'est très bien illustré par le mot valise. Donc, on a des mots valises vraiment prototypiques, très bien vus par Grésillon, par Blanche-Noël Gruning. Par exemple, si vous prenez l'exemple 3, la glascade, la cascade de glace, qui est également un sport très à la mode. Donc, si vous prenez ce mot valise, la glascade, on peut voir là une forme ou la forme canonique du mot valise, c'est-à-dire on a chevauchement des termes sources avec une suppression à leur point de rencontre, on a un glissement naturel entre les deux termes, on a une forte motivation homophonique et sémantique avec en gros l'isotopie aquatique, etc. Par contre, si vous prenez le mot valise numéro 4, mais bon, est-ce qu'il s'agit encore d'un mot valise, le foot tennis, alors là, on a des problèmes, hein, dans la mesure où, dans cette occurrence, le point de rencontre est très réduit, puisqu'il s'agit d'un seul graphème T, hein, donc on a supprimé seulement un T, et où on a finalement davantage une juxtaposition typique de la composition discursive qu'une interprétation typique du mot valise. Mais on pourrait aussi dire qu'on a un début, un minimum de mot valise. Vous voyez, le problème, c'est à partir d'où commence un mot valise par rapport au mot proposé. Enfin, la relativité des figures tient aux aléas généraux du discours. Alors, c'est souvent le cas de l'ironie, de l'hyperbole, donc de toutes ces figures référentielles. En particulier, la nature des genres discursifs a une énorme influence sur la figuralité. Donc, si vous prenez une hyperbole comme 10, le plaisir absolu Miko, un slogan publicitaire, eh bien, cette hyperbole voit clairement sa figuralité s'émousser par le simple fait qu'elle se trouve dans une publicité, hein, et que ce genre médiatique présuppose naturellement une telle figure. Alors ça, c'est le problème des genres, on verra aussi plus loin le problème des registres de discours, hein, qui intègrent des figures. Il y a aussi évidemment le problème du positionnement interprétatif du lecteur, qui est capital, en particulier pour des figures comme l'hyperbole. Si vous prenez l'exemple 9 qui est très connu de Rabelais, donc la jument de Gargantua, hein, cette jument la plus énorme, la plus grande, la plus monstrueuse, grande comme 6 oriflans, donc hyperbole assez caractéristique, mais si on réfléchit à cette hyperbole filée, alors certes, on peut dire qu'il y a hyperbole par rapport à notre univers, à nous, mais on peut se poser la question si on a toujours une hyperbole et donc une figure, si on se place dans l'univers des géants dans lequel évolue Gargantua. Donc, en résumé, même si on peut établir des paramètres de figure, hein, donc ce que j'ai essayé de faire, son statut est toujours fragile. En fait, une figure oscille entre la figuralité, hein, mais aussi la semi-figuralité, c'est-à-dire on a plus ou moins figure, hein, donc les figures donc, qu'on a vues conventionnelles, etc., et même l'antifiguralité, c'est-à-dire quand une figure paraît malheureuse. C'est souvent le cas avec l'hyperbole, ça a été très bien vu par Laurent Perrin. Par exemple, si vous prenez l'exemple 12, cette hyperbole de Magdelon, la précieuse, je trouve ce ho-ho admirable, donc cette hyperbole admirative qui est complètement en porte-à-faux, évidemment, avec l'impromptu médiocre de Mascarille. Donc voilà. Alors, je passe maintenant aux figures de style et je vais aller beaucoup plus vite. Et je vais changer de méthode. En fait, j'ai pris quelques citations, on va dire, symptomatiques qu'on trouve dans quelques ouvrages de stylistique sur les figures et qui essayent de définir la notion de figure de style. Donc, je regarde en gros quels critères ces auteurs accordent à la notion de figure de style. Ensuite, je ferai un petit, on va dire, un petit bilan critique. Et pour terminer, je verrai comment on peut greffer les critères des figures de style sur les critères des figures du discours. Alors, quand on regarde donc ces quelques approches, on voit tout de suite que la figure de style, alors c'est très clair chez Suami, donc la première citation, page 3, on voit très bien que ces figures de style ne sont que des cas particuliers de figures de discours. C'est-à-dire qu'une figure du discours devient une figure de style lorsque certaines spécifications s'exercent sur leurs paramètres linguistiques de base. Donc il faut quelques spécifications. Alors d'après ces auteurs, vous avez une première spécification. Alors évidemment, tout ce que je dis est critiquable, hein. Alors ce n'est pas mon point de vue, c'est le point de vue des auteurs que je cite, mais je pourrais quand même après endosser pas mal de ces points de vue. Donc pour qu'il y ait figure de style, il faut qu'il y ait une certaine ou même une réelle créativité verbale. Donc on insiste beaucoup là-dessus, hein, la créativité de la figure de style, source d'opacification du sens vis-à-vis de l'arrière-plan standard de la langue. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais vous avez des formulations comme figure d'invention chez Arcand, réinvention permanente, ou jeu sur la connotation des mots chez Bette et Marpeau, etc., etc. Alors, deuxième critère pour plusieurs de ces commentateurs, pour qu'une figure du discours devienne une figure de style, il faut que ces saillances soient non seulement perceptibles, manifestes, mais en plus qu'elles soient remarquables ou heureuses. Donc il faut qu'il y ait un bonheur quelque part de la figure qui donne lieu à une appréciation positivante, ce qui n'est pas forcément le cas pour les figures du discours, c'est-à-dire les figures du discours à la limite échappent à toute axiologie, alors que l'axiologie est nécessaire pour ces auteurs et aussi à mes yeux pour le basculement, hein, vers la figure de style. Alors, cette axiologie à la hausse des figures de style est explicitée par exemple chez Rick Alins pour Chou, hein, une mise en forme du langage propre à relever le style, ou chez Arcand, son emploi ajoute de l'élégance à l'expression. Troisième critère qu'on trouve chez ces théoriciens, une figure de style implique davantage un ancrage sur le vécu qu'une figure du discours. C'est-à-dire, très concrètement, une figure de style engagerait fortement la subjectivité de son producteur, constituant, je cite Suami, une expression individuelle. Plus précisément, une figure de style supposerait un acte volontariste chez son auteur. Alors vous avez ça chez Arcand, c'est la notion de travail. On doit travailler son style, on doit travailler, donc il dit travail parfois exigeant, hein, pour faire une figure de style. De même, la production des figures de style paraît relever d'un projet conscient. Il y a souvent cette idée de conscience, c'est-à-dire la figure de style consiste en un choix, donc on choisit consciemment, ça c'est Ricalin pour Chaud, ou même on a une véritable intention de faire une figure, ça c'est chez Bette et Marteau. Donc ça c'est le niveau de la production. Au niveau de la réception, une figure de style solliciterait particulièrement son récepteur, suscitant son intérêt. Donc ça c'est chez Arcan. Mais les figures de style ont surtout une dernière spécification par rapport aux figures du discours. Je crois que c'est la spécification qui revient le plus souvent, c'est leur composante esthétique. Alors, cette composante esthétique, elle est omniprésente, par exemple, dans les définitions de Bette et Marteau, rechercher l'alchimie esthétique et rhétorique, où vous l'avez encore chez Fromillac, qui situe majoritairement les figures de style dans les énoncés littéraires. Et de fait, l'écrasante majorité des exemples donnés par tous ces théoriciens, donc les tenants des figures de style, sont des occurrences empruntées à la littérature. Donc, à travers cette revendication esthétique, les figures de style seraient en rupture par rapport aux figures du discours qui ne seraient que linguistiques. Alors, si on fait un bilan critique sur ces approches, on va dire, qu'on trouve partout, hein, concernant les figures de style. Alors, bien sûr, on peut être d'accord avec un certain nombre de points. Par exemple, il est clair que si vous étudiez les productions verbales, textuelles, dans la perspective de leur poéticité, hein, au sens de Jacobson, bon, il s'avère judicieux de parler de figures de style quand on se focalise sur la singularité expressive, sur la production-productivité sémantique, sur les effets impressifs de telle métonymie ou de telle mot-valise, bref, sur leur valeur. Donc quand on traite les figures en termes de valeur, il est légitime de parler de figures de style, et c'est ce que fait Fontanier. Hein, Fontanier dit globalement figure du discours, mais il a une sous-catégorie, figure de style, qui s'applique à certaines figures hautement expressives du style, l'interrogation, etc. Alors, maintenant, il faut quand même faire quelques réserves. Hein, c'est-à-dire que si on accepte cette appellation de figure de style, il convient de la réaménager par rapport aux définitions précédentes. Alors, en gros, bon, quel reproche on peut faire à ces définitions? Eh bien, elles reposent sur une approche quand même beaucoup trop individualiste. Donc le style, c'est l'homme, le style, c'est l'écrivain, trop ornemental et trop littéraire du style. Parce que le style, c'est évidemment pas seulement la littérature. Je renvoie à l'ouvrage d'Éric Bordas, un professeur dans cette institution, style, hein, qui montre bien que le mot style est utilisé de plus en plus dans tous les domaines. Si vous prenez par exemple la presse, on a de très belles figures de style. Par exemple, l'exemple 3, la Glasscade, c'est une magnifique création journalistique, hein, qui mérite la dénomination figure de style. Ou aussi pour beaucoup d'occurrences publicitaires. Hein. Voilà. Donc, ces conceptions en restent à une approche trop réductrice du style. Alors, ça s'explique par leur but. Hein. Ce sont en général des ouvrages de vulgarisation pour des étudiants en lettres. Donc, évidemment, elles n'ont pas ni le temps, ni pour objectif de travailler dans la nuance, hein, sur le style. Mais, en gros, il serait quand même souhaitable, hein, que lorsqu'on parle de figure de style, on intègre certains acquis importants de la stylistique actuelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au moins deux acquis me paraissent importants. Le premier acquis, c'est que le style, ce n'est pas seulement l'idiolecte, ce n'est pas seulement la dimension individuelle, mais c'est aussi le sociolecte. Hein, c'est, alors Rabatel qui voit très bien cela, entre autres, hein, que le style est une tension aussi bien sociolectale qu'idiolectale. Alors, par exemple, quand on regarde l'hyperbole citée par Suami, donc l'hyperbole de Marot, roi le plus roi qui fut oncle couronné, alors bien sûr, on peut dire que cette hyperbole constitue un indice stylistique de l'expression individuelle de Marot, pour parler comme Suami, donc un idiolecte, mais également cette hyperbole est un marquage stylistique du genre poétique de l'éloge, donc du genre encomiastique, très à la mode à l'époque. Donc vous avez dans beaucoup de figures à la fois la dimension idiolectale et aussi la dimension sociolectale qui sont absolument inséparables. Alors ça c'est une première ouverture qu'on pourrait faire. Une autre ouverture, ce sont les conceptions, on va dire, de, par exemple, de Anne Herzberg-Pierrot ou les conceptions de Jean-Michel Adam du style. Donc ces conceptions génétiques du style, ces conceptions germinatives du style qui me paraissent très importantes quand on étudie la genèse des figures, la genèse dans le texte et aussi la genèse dans l'interprétation. Et qui sont nécessaires peut-être pour expliquer la stylisation progressive d'une métaphore, d'une métonymie, etc. Donc on a vu tout à l'heure l'exemple de la métonymie chez Balzac qui apparaissait génétiquement à partir du manuscrit. Alors, une autre nuance qu'on pourrait faire à ces approches des figures de style, c'est qu'elles tendent à envisager les figures comme des entités, comme des objets, alors que les figures, en fait, c'est quoi ? Ben c'est des relations. Hein. Une figure, c'est une relation, ni plus ni moins. Alors, par exemple, ce sont des relations avec leur énonciateur. Si vous prenez l'exemple du transfert métonymique de Roxane sur sa robe, dans l'exemple de Ricalens pour Shaw, eh bien, ce transfert est indissociable du point de vue, hein, donc on retrouve un petit peu Rabatel, donc de la vision de Cyrano, donc de son énonciateur. Bon, les figures, ce sont aussi des relations avec les registres, hein, les registres qui les intègrent. Alors, ça a été assez peu étudié, mais par exemple, il est clair que la charge stylistique d'un mot-valise n'est pas du tout la même dans un contexte, dans un registre argumentatif, comme la confiture publicitaire citée par Arcand, ou un registre polémique, comme le Sorbonnagre de Rabelais, cité par Suami. Et enfin aussi, les figures sont des relations avec l'encyclopédie de leur énonciataire. Par exemple, la stylicité de Sorbonnagre cité par Suami est totalement problématique pour le lecteur qui ignore le sens de onagre, évidemment. Alors, au terme de ces remarques, évidemment qu'il faudrait encore affiner, on peut envisager la figuralité comme une réalité concrète. Bon, bien sûr, beaucoup de gens... Un certain nombre de linguistes disent que les figures n'existent pas, mais n'empêche, hein, dans le sens commun, on parle de métaphore, on parle d'euphémisme, etc., et on a le sentiment qu'il existe des figures. Donc la notion de figure correspond à quelque chose de très très profond, on peut dire dans la linguistique populaire, dans le sens commun, mais... Je pense qu'on doit dire que les figures, finalement, ce sont des phénomènes modulaires. Hein, ce sont des phénomènes modulaires selon les points de vue qu'on a sur elles. Alors, je fais un commentaire très rapide pour terminer sur cette première partie qui est la plus longue, donc avec le schéma de la page 4. Bon, je résume un petit peu tout ce que j'ai dit, hein, mais je vais le résumer avec l'exemple 1. Ce magnifique mot valise, le Burkini. Je ne sais pas si vous avez vu ce mot valise quelque part. Hein. Et donc c'était surtout dans les années, il y a 2-3 ans, le problème du maillot de bain islamique. Donc en particulier en Norvège, on a inventé le Burkini. Alors, si vous prenez donc le point de vue linguistique, une figure, donc selon le point de vue linguistique, une figure est fondamentalement du discours. Hein. Donc, variation libre, donc on le voit avec le Burkini, hein, donc jeu sur la composition discursive, la composition lexicale, variation saillante, donc ici saillance par amalgame, en plus, variation qui se greffe sur des schèmes cognitifs très profonds, très typiques, qu'on retrouve à la source de X énoncé, et qui inscrivent le Burkini dans des matrices, on va dire, plus générales. Par exemple, Burkini, c'est vraiment une matrice antithétique très prégnante. Donc, l'antithèse, hein, est une des grandes matrices conceptuelles qui fondent beaucoup de figures. Donc ici, c'est l'antithèse entre, évidemment, la tradition, la burqa, et la modernité, le bikini. Par ailleurs, on a un noyau fonctionnel très très fort dans Burkini. D'ailleurs, ça condense tout l'article, hein, puisque c'est dans le titre, hein, que le mot valise apparaît. Et ce mot valise concentre sur un seul mot tout le dilemme des femmes musulmanes, ben, qui désirent s'adonner à la natation. Donc ça, c'est le côté figure du discours. Alors, les paramètres de la typicité matricielle, c'est-à-dire en gros, c'est le classement rhétorique des figures, hein, et de la fonctionnalité, c'est-à-dire la figure comme outil de persuasion, etc., peuvent donner lieu à un point de vue rhétorique, hein, sur les figures, donc, mais je n'insiste pas sur ce point de vue. Et maintenant, si on prend le point de vue stylistique, donc là, on va s'intéresser plutôt à la valeur de la figure, hein, à la valeur. Et là, on va être sensible à d'autres types de paramètres, mais tout ceci étant complémentaire. Par exemple, le côté créatif, alors c'est le néologisme, Burkini, évidemment, mis entre guillemets. Hein, leur poéticité plus ou moins grande, au sens de Jacobson. Alors là, bon, le jeu homophonique, burqa, bikini, etc., le potentiel connotatif, hein. Par exemple, Burkini active X réseaux de sens. Donc, dissimulation du cœur, dénuement du cœur, évocation intégriste, évocation de loisir, etc. Et puis aussi tout le côté implication existentielle socioculturelle qui peut rentrer dans le point de vue stylistique. Ici, par exemple, Burkini révélant un conflit vital pour les femmes concernées, soumises ou libérées. Alors, autant le paramètre linguistique me paraît fondamental, hein, c'est-à-dire une figure, elle est toujours nécessairement linguistique, autant le paramètre stylistique me paraît plus secondaire, mais c'est un débat. Vous voyez, c'est un débat fondamental. Hein. Est-ce que la figure, elle est d'abord linguistique et secondairement stylistique, ou est-ce que la figure, elle n'est que stylistique? Bon, ça pourrait être certaines positions, par exemple Laurent Génie et d'autres, hein, ou finalement, est-ce que cette distinction est parfaitement stupide? Donc mon exposé est un peu stupide. Mais je crois que c'est intéressant de voir un petit peu ces critères, une fois de temps en temps. Pour savoir de quoi on parle, parce qu'on parle de métonymie, métaphore, comme si ça va de soi, rien ne va de soi, hein, et surtout dans le domaine des figures. Alors, je prends encore, j'ai 15 minutes.
Oui.
Je vais très très vite. Hein. Je voudrais dire un petit mot, voilà, j'ai rajouté, donc ça c'est le côté un petit peu illustrateur pratique de l'exposé. Un petit mot sur le fonctionnement de quelques aspects de la métaphore dans la publicité. Donc en gros, c'est pour montrer sur un corpus non littéraire, parce qu'on m'a dit d'insister sur l'aspect non littéraire, parce que souvent on tire trop les figures sur le littéraire, donc un corpus non littéraire, et pour montrer que surtout la figure, donc ici la métaphore, est en, on peut dire en osmose, hein, en osmose totale avec son type de discours, donc ici le discours publicitaire. Alors, comme on le sait, le discours publicitaire est essentiellement axiologique. Donc le but de la publicité, c'est la valeur, hein, c'est d'apporter une valeur ajoutée au produit qu'elle promeut. Or, parmi les procédés de valorisation sollicités par la publicité, la métaphore est l'un des plus importants. Alors, elle est vraiment omniprésente, hein, dans la publicité, la métaphore. Alors, la métaphore, bon, généralement, on la considère comme un instrument de recatégorisation. Hein, ça, c'est bien connu. On recatégorise le discours par l'analogie. Donc, on recatégorise un univers thème par un univers allotopique, un univers fort. Mais on oublie souvent que la métaphore possède une forte dimension axiologique. C'est-à-dire métaphoriser, c'est pas seulement recatégoriser, mais c'est aussi réorienter qualitativement le discours. C'est exprimer des jugements. La métaphore, c'est un jugement. C'est suggérer des évaluations. Et surtout, c'est chercher à les imposer. Donc on ne peut pas séparer la métaphore de sa, on va dire, de son fondement argumentatif premier. Et on peut dire que dans ce sens, les recatégorisations de la métaphore se doublent inévitablement de transvalorisation. Donc c'est cette idée qui me paraît fondamentale, et en particulier pour la publicité. Donc on va avoir sans arrêt dans la publicité des transvalorisations analogiques entre des univers forts et l'univers thème, qui est l'univers du produit. Alors, je vais simplement montrer quelques aspects de cela. En liaison avec la visée argumentative de la publicité, et surtout en liaison avec les modèles socio-économiques dans lesquels se situent les discours publicitaires. On peut dire que c'est très simple. Hein. Soit la publicité va conforter des modèles socio-économiques existants, c'est ce qui se passe le plus souvent, hein, la publicité est très conformiste, soit, ça arrive de temps en temps, la publicité produit des nouveaux modèles susceptibles donc d'enrichir le monde de la consommation. Et on va voir que la métaphore intervient différemment selon ces deux possibilités. Je vais très vite sur le premier cas, c'est ce que j'appelle la métaphore conformiste, c'est d'une énorme banalité, mais bon, c'est ainsi. C'est-à-dire que très souvent, la métaphore publicitaire se contente de reproduire les modèles socio-économiques dominants. Donc c'est ce qu'on appelle les publicités intégratives, qui s'appuient sur les représentations partagées du public. Simplement, on peut dire que dans ce cadre, la métaphore se contente de donner une densité particulière ou une force à ces représentations préconstruites. Alors, vous avez un certain nombre. Alors, on rejoint Lakoff et Johnson. Je pense que beaucoup connaissent les métaphores dans la vie quotidienne. Alors, vous avez plein de publicités qui exploitent ces matrices de l'imaginaire collectif. J'ai pris l'exemple de la voiture. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire d'une voiture ? Alors, vous avez très souvent les matrices métaphoriques. La voiture est une femme. Hein, vous lirez vous-même les exemples. La voiture est un félin. La voiture est un bijou, etc. Donc, dans ce cas, évidemment, vous avez des métaphores conventionnelles, mais qui valorisent l'univers du produit. Dans le sens de la féminisation, de l'animalisation, de la réification, etc., selon des schèmes parfaitement prévisibles. Donc on est dans la stéréotypie. Alors la stéréotypie aussi bien dans le choix du fort que dans la connexion métaphorique elle-même. Du reste, c'est tellement stéréotypé que vous avez là des publicités qui n'ont pas de texte. Hein, on a essentiellement un slogan hein, dans ces publicités, celui qui est reproduit. Et ce slogan, du fait de son évidence pour tout le monde, n'a pas besoin d'être étayé socioculturellement et de donner lieu à des développements supplémentaires. Alors ça, c'est donc la première possibilité, donc les métaphores qu'on peut qualifier de conformistes, mais qui sont très efficaces, hein, parce qu'elles jouent sur des analogies parfaitement implicites. Je ne sais plus qui c'est qui disait que plus une métaphore est cachée, plus elle est efficace. Donc on retrouve bien, encore une fois, Lakoff et Johnson. Je passe au deuxième cas. Alors, c'est de plus en plus intéressant, normalement, hein, le corpus. C'est ce que j'appelle la métaphore pseudo-créative. Alors, la métaphore pseudo-créative, en gros, c'est un second modèle publicitaire qui consiste à utiliser des métaphores, on va dire, stylistiques, hein, pour employer les mots, bon, des métaphores originales, mais ces métaphores restent seulement stylistiques. C'est-à-dire, elles ne reconceptualisent pas l'univers de la consommation. Hein, donc on a simplement un travail sur l'expression, sur la poéticité du discours. Alors, ces métaphores pseudo-créatives, on les trouve surtout dans deux cas. Premier cas, alors ça correspond à des pratiques très connues, c'est l'intertextualité tout simplement. Donc, on va jouer, donc c'est la publicité qui joue avec le discours, simplement. Hein. Donc, on va détourner des valeurs à la mode, pastiche, parodie et toutes ces choses-là. Alors, exemple 20 à 22. Par exemple, si vous prenez 20 et 21, eh bien, vous avez des métaphores, des jolies métaphores qui sont empruntées au domaine de la lutte contre le sida. Vous voyez, donc on projette le domaine ou l'allotopie de la lutte contre le sida sur des produits de consommation parfaitement banals, hein, par exemple les lunettes en 20, ou la bière Fischer en 21, ou bien autre type de valeur à la mode qu'on sollicite, c'est le succès d'un film. Donc c'était l'époque, vous voyez la date, 1998, l'époque du film Titanic. Donc vous voyez la firme suisse Migros a créé ce joli mot valise, Titanic, avec EA, pour promouvoir l'Ice Tea Peach et l'Ice Tea Lemon, etc. Alors, quand vous réfléchissez, ce genre d'exercice n'apporte strictement rien aux produits concernés. C'est-à-dire, on se contente simplement de reformuler imaginairement la qualité dominante du produit. Par exemple, plus protection. Vous voyez, il n'y a pas de création conceptuelle. Ou bien la qualité plus fraîcheur, plus forme allongée dans le cas de Titanic. C'est-à-dire, on se contente de confirmer les propriétés d'usage des produits. Simplement, voilà, la créativité, elle est encore une fois dans le style. Ouais. C'est-à-dire, on prend des valeurs socioculturellement à la mode, et on crée une certaine valorisation connotative des produits qu'on convertit en produits branchés. Hein, mais ça peut être dangereux parce que quand même le sida et le Titanic véhiculent des connotations de mort. Donc vous voyez qu'on a pensé à la connotation plutôt de mode, hein, véhiculée par ces métaphores, mais on n'a pas pensé à l'autre aspect négatif et du sida et du naufrage du Titanic. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est tout simplement une valorisation du discours publicitaire par le jeu de la citation intertextuelle en 20 et 21, hein, qui reprend les slogans anti-sida, et par le mot valise calembour en 22. Alors vous avez exactement la même chose quand la publicité fait de l'ironie. Alors c'est le bel exemple 23. Je n'ai malheureusement pas le temps de l'aborder, mais globalement, c'est une publicité pour la moto Zephyr 550 de Kawasaki. Vous avez apparemment une métaphore, une publicité horriblement sexiste. Hein, la moto est une femme. Alors voilà encore une métaphore, une matrice métaphorique pour la publicité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un traitement hyperbolique tellement exagéré qu'on voit tout de suite le basculement vers l'ironie et qu'à l'arrivée, finalement, la valeur de cette annonce devient indécidable. Ça, c'est surtout à la lecture du slogan. Le slogan de l'exemple 23, c'est Kawasaki, on exagère, mais à peine. Alors, on exagère, c'est l'hyperbole, hein, c'est l'hyperbole, donc on s'amuse, on fait de l'ironie, on fait du style, mais à peine. Donc, à peine, ça veut dire, attention, on est peut-être anti-macho, mais on est aussi macho. Vous voyez, donc, c'est classique avec l'ironie, hein, c'est-à-dire, on suspend les jugements de valeur et on peut intéresser le public le plus large. On peut intéresser un public très décalé, hein, qui va apprécier l'ironie. On peut intéresser un public très machiste, c'est souvent le public des motards, hein, qui n'apprécie pas trop ce genre de plaisanterie, etc. Bon, mais je laisse tomber. Alors, je passe au dernier cas. Alors, le dernier cas, c'est quand la métaphore publicitaire est à la fois créative, discursivement ou stylistiquement, et surtout quand elle crée des nouveaux concepts, des nouvelles valeurs conceptuelles. Alors, ça se produit essentiellement dans deux cas. Ce sont les publicités qu'on appelle singulatives, premièrement, qui créent des contre-connotations, qui créent des contre-valeurs, qui s'opposent aux valeurs dominantes. Je vous ai mis deux exemples, trois exemples, 24-25. Alors 24-25, bon, le cas de Geox est bien connu, hein, c'est donc la chaussure à semelle avec des membranes microporeuses, donc une invention qui a été assez marquante à son époque. Et vous voyez le slogan Geox, la chaussure qui respire. Alors, il s'agit ici de s'opposer au stéréotype. Hein, donc, on crée un contre-stéréotype. Donc, le stéréotype de base, c'est les chaussures compriment les pieds. Et on a ici une inversion axiologique du stéréotype, hein, dans le sens donc euphorique de la vitalité. Le tout dans une énonciation polyphonique, hein, donc je n'insiste pas. Et on introduit une transvalorisation, donc un nouveau concept de la chaussure, hein, la chaussure qui ne transpire pas, et aussi une contre-qualification. Alors, c'est un petit peu anodin quand on est dans le domaine des chaussures, c'est beaucoup plus sérieux quand on est dans le domaine du sida. Hein, c'est l'exemple 26. Alors, il faut bien dater la publicité 1994. Donc, c'est une époque où le sida était encore marginalisé. Et donc, vous avez là une publicité parmi d'autres, qu'on appelle contre-connotative, c'est-à-dire qui essaye de changer l'image qu'on a sur le sida. C'est-à-dire, pour parler très clairement et très rapidement, on va se servir de la métaphore filée de l'arbre, du bois. Donc, vous pouvez lire. Hein. Donc, on a la métaphore de l'arbre pour réévaluer l'attitude à adopter face au sida. Contre le discours de l'époque, c'était le discours de la marginalisation, eh bien, on va essayer d'imposer le discours de la solidarité, hein, tout simplement. Alors, la solidarité, elle apparaît diachroniquement à travers l'arbre généalogique, vous voyez, vous avez la solidarité diachronique, l'arbre généalogique, et la solidarité synchronique, la forêt humaine, hein, et vous avez plein d'analogies secondaires, donc le sida qui est mis en rapport avec les arbres prêts à être élagués, etc. Bref, vous avez là une très belle publicité métaphorique qui propose un contre-modèle. Donc là, on est dans des publicités de contre-modèle, de comportement, et ce contre-modèle, évidemment, s'est imposé depuis. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ce qui existe depuis, c'est le moment où les choses basculent, hein, dans la publicité. C'est-à-dire, c'est le moment où on essaye de proposer des visions nouvelles sur les produits, même si ces visions sont totalement banales actuellement. Alors ça donc, c'est un cas où la publicité, la métaphore publicitaire crée des contre-valeurs, mais très souvent elle crée des valeurs singulières. Alors le cas magnifique et typique, c'est le cas des parfums. Bon, je n'insiste pas, malheureusement je n'ai pas le temps, mais on pourrait analyser en détail. Vous voyez, toutes ces belles métaphores publicitaires pour dénommer les parfums, donc Fiji, hein, opium, ivresse. Alors, il est clair que dans ces cas, vous avez des liaisons métaphoriques qui sont totalement construites discursivement, c'est-à-dire que vous n'avez aucun lien préalable et nécessaire entre Fiji, l'île de Fiji, hein, l'archipel de Fiji et le parfum. D'autre part, on construit des mondes. En fait, le parfum construit son propre monde. C'est le but fondamental. Et c'est la métaphore qui tient ce rôle la plupart du temps, à travers donc des analogies ouvertes et surtout synesthésiques. Donc on a sans arrêt les propagations des sensations entre elles. Ici, par exemple, Fiji, c'est quoi ? C'est ce parfum est sauvage, exotique, naturel, secret, paradisiaque, etc. Hein? Donc on peut dire que le produit est une métaphore. Hein? Le parfum est une métaphore, hein, quelque part. Et on a une oscillation entre l'allotopie, c'est intéressant de parler de allotopie et de utopie avec Fiji. Hein? Donc c'est l'allotopie géographique, donc la métaphore, on parle d'allotopie, alors là, géographique, mais elle se transforme en utopie. Hein. Donc on a une oscillation entre l'allotopie et l'utopie. Alors l'utopie, c'est la femme île, c'est-à-dire c'est l'archétype fantasmatique fondamental, hein, auquel arrive cette publicité. Alors c'est la même chose avec les autres, sauf qu'on a souvent beaucoup d'ambiguïté. Et pour terminer, un autre cas, un autre domaine publicitaire où la métaphore, à un moment donné, a permis de reconceptualiser un univers, c'est le cas de l'informatique avec Macintosh. Donc ça, c'est les années 99. Alors vous avez cette magnifique publicité pour le iMac. Hein. Regardez le slogan, collectionnez les 5 avec un seul N, collectionnez le nouveau iMac, maintenant en 5 parfums, different. Hein, donc, on reconceptualise, hein, on ne fait pas seulement une métaphore pour le style, on fait une métaphore à valeur conceptuelle. Et qu'est-ce que vous avez comme métaphore ? Ben, vous avez la métaphore du parfum, hein, qui est à la fois dite, enfin qui est dite, collectionner les 5, donc les 5, déjà le nez, donc vous avez le mot valise collectionner, hein, avec un seul N, les 5 qui rappellent Chanel numéro 5, maintenant en 5 parfums, donc qui explicite la métaphore, donc métaphore du parfum, mais en même temps métaphore de la collection. Et aussi la métaphore du parfum, elle est représentée iconiquement. Alors on n'a pas les couleurs ici, mais vous remarquez ce montage des 5 iMac, hein, qui évoque soit des flacons de parfum, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, et qui évoque aussi le montage hein, qu'on a souvent dans les publicités pour parfums. Mais ici, le but, c'est tout simplement de reconceptualiser le monde de l'informatique, réputé froid à l'époque, par une informatique sensuelle, esthétique et démocratisée. Alors ça, c'est donc la devise Macintosh de l'époque et qui continue. Donc ici, on propose métaphoriquement un nouveau modèle de comportement socio-économique hein, qui modifie l'idée même qu'on a sur le produit. Et c'est là qu'on peut parler de publicité à métaphore, on va dire, créative, aussi bien stylistiquement que conceptuellement. Voilà, je m'arrête. Donc, la métaphore, si je résume en un mot, ce n'est pas un simple ornement, hein, c'est une figure du discours qui remodèle non seulement le discours, mais qui remodèle les valeurs et qui remodèle les représentations cognitives. Donc on ne peut jamais séparer les figures de la cognition qui leur est sous-jacente. Et dans le cas de la publicité, tout ceci se fait avec de la séduction, plus qu'avec de l'argumentation. Hein, donc les figures, ce n'est pas tellement pour argumenter, c'est pour séduire et pour persuader. Mais on n'a pas le temps de développer. Et surtout, c'est pour jouer sur les valeurs, mais on ne dit pas. Hein, on joue sur les valeurs sans le dire et sans que l'auteur en assume la responsabilité. Voilà, merci. Donc c'était juste pour vous montrer un exemple intéressant que vous pouvez de votre côté bien sûr approfondir de l'utilisation discursive de la métaphore.